Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 238e Comics Weekly. Au sommaire de cette semaine, les reviews des sorties comics VO avec notamment chez DC le nouveau Multiversity Ultra Comics, la fin d'Arkham Manor et une review surprise de Batman Eternal par Mr. Anemone. Dans la partie 1D, nous reviendrons sur la sortie de Gem and the Holograms mais aussi de Past Aways. Nous parlerons aussi du retour de Dream Police et enfin chez Marvel, du New Avengers, du Daredevil, du Darth Vader et Uncanny X-Men, sans oublier évidemment les TP de la semaine. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi pour vous parler de tous ces nouveaux comics, Mr. Anemone.
Bonsoir à toutes et à tous.
Qu'il me tarde d'entendre ta review surprise de Batman Eternal.
Oh oui. Oui, quelle surprise.
Et puis Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Qu'il me tarde d'entendre ta review de Gem and the Holograms.
Ah bah oui, hein.
T'es un foufou d'avoir été lire ça quand même.
Mais oui, mais aussi une surprise,
ça va peut-être vous rappeler des souvenirs de quand vous étiez gamin.
Ouais, que ça me rappelle le souvenir que je zappais à chaque fois, ouais. Mais bon, on en reparle tout à l'heure. Pour l'heure, on va démarrer avec notre partie d'essai, et c'est toi, Bruno, qui va garder la main, puisque tu vas nous parler du Multiversity Ultra Comics.
Je prends la main.
Tout à fait. C'est écrit par Grant Morrison avec des dessins de Doug Mankey. Et donc, c'est un numéro, on va dire, crucial pour Multiversity, puisqu'on a enfin des révélations sur ce fameux personnage de Ultra et sur ce comics, le Ultra Comics qu'on a pu voir dans pas mal de numéros de Multiversity en petit fil rouge avec pas mal de personnages qui lisaient ce comics. Ultra Comics, c'est tout simple, en fait, c'est un comics qui est publié sur notre Terre, en fait. Et ça, donc l'histoire se passe, on va dire, entre guillemets, en s'adressant au lecteur. Puisque on est dans un concept complètement barré, où en fait le personnage de comics, il tient son pouvoir du nombre de personnes et du nombre de la diversité des gens qui lisent le comics, en fait. Et en fait, on est presque en train de lire un comics dont on est le héros, puisque dès le début ça commence et limite on nous invite à ne pas lire le comics car il y a notre vie qui est en danger. C'est-à-dire qu'on a le personnage d'Ultra Man qui nous dit c'est un piège, ne tournez pas la page.
Ouais, c'est surtout le meilleur argument marketing de l'univers.
c'est surtout lui qui est en danger, au fait. C'est,
voilà, lui est en danger, mais a priori toute la Terre et tout le monde entier est en danger, puisqu'il est fait référence au fait que même notre réalité pourrait être attaquée. Donc
selon Grant Morrison, achetez-le, mais ne le lisez pas par contre.
Voilà,
mais achetez-le, hein, surtout.
Mais c'est ça qui est rigolo, parce que c'est vraiment une expérience assez ludique quand on lit le comics, puisque on a une narration, donc voilà, c'est celle d'Ultraman, un personnage qui est conscient en fait que sa force et son pouvoir, il le tient du fait que il y a beaucoup de gens qui le lisent. Et on a des petites annotations par moment où on voit par exemple les commentaires de certains lecteurs par rapport à l'intrigue, avec des choses assez rigolotes qui cassent le quatrième mur, avec genre des petits commentaires disant « Oh là là, c'est quoi encore ce scénario tout pourri ?»« Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire dire là comme ça ?»« Avec cette histoire, on comprend rien. Moi, j'aimerais bien un truc un peu plus simple à comprendre. » Enfin, il y a des petites annotations qui sont assez rigolotes. Et il y a carrément même un moment où, en fait, c'est justement les critiques des lecteurs qui sont la force du personnage. Et c'est assez bien amené. Bon, sinon au niveau de l'histoire, donc d'Ultraman, il se retrouve face à une menace sur une planète mystérieuse qui est attaquée et il va vite se rendre compte qu'en fait il tombe dans un piège. Et voilà, après on va pas s'étaler un peu plus là-dessus, mais ça suit directement ce qui se passe dans le numéro 1 de Multiversity, puisqu'on y retrouve certaines entités maléfiques qu'on avait pu voir dans le premier numéro.
Donc du coup, ça permet
un peu mieux de faire le pont entre le début de Multiversity et ben voilà, on s'approche de la fin. Il restera plus qu'un numéro après celui-là pour conclure. Graphiquement, Doug Menke fait un très très beau boulot. C'est vraiment très joli. Il est aidé aussi par les coloristes hein, qui font il y a pas mal de choses assez sympas au niveau des colos. C'est assez flashy par moments. Il y a deux trois scènes de baston qui sont assez assez cradouilles et voilà. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est assez méta comme comics, mais vraiment ça joue bien son rôle et pour l'instant ça continue à être un sans faute un Multiversity pour moi.
As-tu le même avis, Mister Nebony?
Voilà, c'est alors. J'ai bien aimé la première partie de ce comic, effectivement, c'est totalement méta, ça m'a fait penser vachement à Supreme, justement, d'Alan Moore, enfin, notamment le passage d'Alan Moore sur Supreme, avec donc ce super-héros qui se moque un petit peu des codes des comics de super-héros et qui a conscience, j'allais dire, de son propre mal et de sa propre existence qui est totalement interdépendante des fans. D'ailleurs, il y a deux pages qui sont assez marrantes aussi, où on voit clairement l'évolution du personnage avec des aventures totalement kitsch, et puis d'un seul coup, on passe à un truc totalement grim and gritty.
C'est clairement Golden Age, Silver Age, Modern Age, et voilà, qui est... En fait, il tient son pouvoir de toutes ces phases de l'époque, du comics, quoi.
Donc tout ça, ça m'a fait penser à Supreme. Et puis arrivé un moment dans le comics, j'avoue que j'ai pas tout compris. Voilà, c'est vers le milieu... j'ai pas tout compris. Il y a de plus en plus de références obscures et de processus méta de plus en plus profonds et de plus en plus alambiqués. Et voilà, par exemple l'espèce d'entité à la fin, qui sait pourquoi, comment, d'où ça vient, cette fin un peu bizarre.
Le méchant du premier numéro. Je sais pas si tu l'avais lu le premier.
Non. Mais d'accord, mais est-ce qu'on te disait tout ce qu'il y avait à savoir sur ce truc-là, quoi?
Oui, c'était la menace principale de Multiversity qui essayait de détruire justement tout le multivers et de conquérir le monde.
D'accord, peut-être qu'il me manquait cet élément, mais sinon, même les adversaires contre lesquels il se bat dans le comics, j'ai pas compris tout le délire, quoi. C'est assez bizarre, quoi. C'est du Morrison, on a l'impression qu'il saute des étapes ou qui manque des pages à chaque fois. Enfin, tu vois, j'ai toujours cette impression.
Il y a des ellipses, effectivement.
Il y a de grosses ellipses. Et,
Warren ellipse.
Voilà. Ben, c'est vrai que son style narratif est toujours assez proche et c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Mais voilà, c'est en demi-teinte. Je pense pas que j'ai fait la meilleure pioche des 9 numéros possibles de Multiversity. Il y en a encore un, hein, le 9e qui doit sortir. Qui s'appellera Multiversity numéro 2 d'ailleurs.
Ouais, et qui fait effectivement suite au tout premier qu'il faudra que tu lises du coup si tu veux.
C'est ça, voilà. Mais pour ce qui est des autres, j'avais juste lu le Multiversity Guidebook.
C'est que Bunny, il a décidé de faire encore plus compliqué que Grant Morrison, il a décidé non seulement, déjà Grant Morrison a découpé son histoire, ce qui fait que on peut lire presque indépendamment les numéros, mais il y a quand même des choses à prendre dans chacun. Bunny, il a décidé de les lire carrément dans le désordre pour compliquer la chose.
Ouais, mais normalement, justement, tu peux les prendre, d'après ce que j'avais compris, hormis le premier et le dernier, je veux dire, tu pouvais prendre un petit peu n'importe quel épisode comme ça dans le désordre, sans que ça pose trop de problèmes. Alors, c'est vrai que le problème,
encore
c'est
faut-il avoir lu le premier, quoi.
Voilà. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas lu le premier, et c'est problématique. Par contre, j'ai lu le guidebook, qui faisait justement l'état des lieux un petit peu de tous les univers, donc je connaissais déjà un petit peu ce personnage d'Ultra, qui était présenté à travers les 52 univers différents. Bien qu'on avait des univers mystères, hein, il y en avait 5, je crois. Donc un encore plus mystère que les autres. Ça m'avait fait marrer. Non, 7 univers mystères, je crois. Dont un qui était vraiment l'univers ultime mystérieux, etc. Donc est-ce qu'on aura des réponses dans Multiversity numéro 2
mystérieux. Bah,
on verra. En tout cas, je pense que j'ai pas forcément lu celui qui m'aurait le plus intéressé. Pax Americana. Voilà, avait l'air vraiment très très bon.
C'est une tuerie.
Ouais. Ben.
Auto-contenu.
Voilà. Je me ferai en bonne et due forme Multiversity incessamment sous peu. Je pense que quand ça sortira en TPB, je vais me les faire comme ça. Bon voilà, un numéro.
Est-ce que ça sortira en TPB seulement?
Oui, forcément. Enfin, il y aura des éditions, quoi. Il y aura quelque chose.
Avec DC, t'as pas intérêt à être très pressé quand même. Hein.
Pour la version souple, c'est pas tout de suite, mais il y aura un beau hardcover sans doute dans quelques mois, oui.
Ouais. Mais enfin, toujours est-il que voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu longué sur la fin, je me suis un petit peu ennuyé. On va dire, j'ai compté les 10 dernières pages, quoi. Vraiment, je les ai senties passer. Donc bon, voilà, pour moi, j'ai envie de dire un bon check-it, mais pas forcément un bail pour ce numéro de Multiversity.
On va dire que c'est un bon gros bail pour les gens qui ont commencé à lire Multiversity et qui suivent voilà, numéro,
ouais, mais,
numéro.
Ouais, mais non, on va dire exactement ce que j'ai dit.
Et pour ma part, c'est un bail également.
Également. Mais quel troll. Voilà.
On passe au dernier épisode de Arkham Manor, l'épisode 6, enfin, dernier épisode, oui et non. C'est le dernier épisode numéroté, toujours par l'équipe de Gary Dugan au scénario et Sean Crystal au dessin avec une colorisation de Dave McKeag. En revanche, ce n'est pas exactement le dernier épisode d'Arkham Manor, puisque la semaine prochaine, et oui au mois d'avril, parce que tout est logique chez DC, sortira le tie-in Endgame. C'était utile, évidemment.
Bien sûr.
Voilà, c'est complètement con de le sortir en avril en plus, au début de Convergence, enfin, ça n'a aucun sens.
Oui, mais Endgame, ça se termine fin avril en plus, donc c'est un peu chelou.
Oui, mais c'est bien ce que je dis, ça n'a aucun sens.
Ouais, ça n'a aucun sens.
Alors, ce dernier numéro est une conclusion du premier arc, et du seul arc d'ailleurs de la série, puisque la série s'arrête. Ce qui est fort dommage. Je rappelle le pitch, hein, on a le Arkham qui a été déplacé dans le Manoir Wayne, le gouvernement, enfin en tout cas, c'est pas forcément le gouvernement, mais c'est plutôt le conseil municipal de la ville qui a décidé de saisir le Arkham Manor, le Wayne Manor, pour en faire le nouvel Arkham qui avait, rappelons-le, explosé au sein de Batman Eternal. Et tous les détenus ont été transférés là, et il y a un tueur de détenus, ce pourquoi Batman va se mettre à enquêter, et va donc s'infiltrer dans ce Arkham Manor en se faisant passer pour un lui aussi fou qu'on a mis à l'asile. On arrive donc à la conclusion, Batman a réussi à s'en sortir, le tueur est parti, et il est à sa poursuite. Bon, le gros problème de cet épisode, c'est quand même qu'on sent que c'est rushé à mort, quoi. On sent que c'est rushé à mort, il commençait à mettre en place plusieurs petites intrigues pour y revenir, et on sent qu'il n'a vraiment pas le temps de tout terminer. Déjà, rappelons que ça se passe avant Endgame, c'est encore un problème de temporalité assez chiant. On a donc Batman qui va chercher le tueur, c'est un numéro assez rentre-dedans, c'est vraiment de l'action, et on essaie de ranger un petit peu les jouets, on règle le cas de l'identité que Bruce Wayne a pris pour s'infiltrer dans Arkham Manor, on met en place quelques problèmes concernant le docteur Arkham, mais on n'aura malheureusement aucune réponse à ça, et au fait que Bruce récupère son manoir. Il y a les pièces pour qu'il puisse le faire, mais c'est pas complètement adressé. Du coup, je suis un peu déçu de cette conclusion, quoi. Je suis vraiment un peu déçu. La série était vraiment bonne, elle m'a vraiment beaucoup plu. Mais voilà, c'est le souci pour moi, c'est que c'est trop rushé pour la conclusion. Donc, ça restera un bail parce que la série dans l'ensemble est bonne. Après, pour le numéro en lui-même, je vais dire que c'est un check-it, quoi. Et bien sûr, évidemment, ne commencez pas par celui-ci, c'est la fin.
Ce serait con.
Voilà. Donc un petit peu déçu, quoi. Sympa, content d'avoir vu la fin, mais déçu de cette fin-là. On passe à la fin, mais cette fois-ci d'un arc, Bruno, parce que tu vas nous parler du sixième numéro de Deathstroke.
Oui, tout à fait. La version qui est écrite et dessinée par Tony Daniel. Donc j'avais lu le premier numéro il y a quelques mois, qui m'avait laissé un petit peu dubitatif, avec un gros changement de statut pour le personnage qui se retrouvait rajeuni, qui retrouvait son œil, et on comprenait pas trop ce qui se passait. Par contre, j'avais été séduit par la partie graphique, hein, puisque les dessins de Tony Daniel sont vraiment excellents. On a un Deathstroke qui a rarement été aussi classe, que ce soit dans ses scènes d'action ou voilà, quand il pose et tout, c'est vachement cool. Donc là j'ai rattrapé un peu l'arc et effectivement c'était plutôt sympathique à suivre. Ils essayaient de développer pas mal de choses sur.
Le premier numéro. Hein.
Ouais, pourtant j'avais bâché. Ouais, mais tu vois finalement j'ai rattrapé un peu pour pouvoir lire la fin de l'arc et c'était pas si mal. C'est juste que c'était parfois un petit peu rapide avec des ellipses qui ils introduisaient des personnages. On avait l'impression que c'était des personnages qui existaient avant, mais en fait ils étaient créés pour le comics et Il faisait comme si on les connaissait depuis 50 ans. Alors ça paraissait parfois un peu bizarre, mais au final c'était assez cool. Il y avait pas mal de choses en rapport avec les liens de parenté de Deathstroke, les problèmes qu'il avait avec son père qui croyait mort, et justement ses enfants aussi qui étaient impliqués dans l'intrigue. Et là en fait on arrive à la conclusion avec justement le combat entre Deathstroke et son père. Et là même chose que pour Arkham Manor, on a l'impression que c'est ultra rushé, c'est-à-dire que il y avait plein de pièces intéressantes, et là en fait ils ont tout bousillé dans les 3-4 dernières planches, où en fait c'est assez illogique le combat, ça se termine vraiment comme un cheveu sur la soupe, j'avoue que j'étais vraiment déçu par la façon dont ça se termine. Clairement on sent
Donc,
que
numéro
voilà,
d'ouverture décevant, numéro de fermeture décevant.
voilà. Et entre les deux c'était pas mal. Alors graphiquement ça reste vraiment toujours aussi beau. En plus il y a pas mal de caméos dans ce numéro. On retrouve toujours Harley Quinn, mais bon, on a aussi Ravager et Jericho, donc les enfants de Deathstroke qui sont présents. Il y a de la bonne grosse baston, c'est très violent, hein. C'est un des titres les plus violents dans le DC classique proper, quoi.
Bah, rappelons la com hein, qui avait été faite sur le numéro précédent, hein, la baston la plus violente que vous avez jamais vue. Hein.
Voilà. Bon, ce côté-là, très violent, très très fun et plutôt cool. Mais vraiment, niveau scénario, j'étais vraiment très déçu par la fin. Et voilà, on sentait qu'en fait, il fallait qu'il range les jouets avant Convergence. Et du coup, on se retrouve avec une fin complètement anticlimactique. Donc j'avoue que je suis assez déçu. Pour moi, ce sera juste un check-it pour cet arc. Peut-être qu'en juin, ils vont revenir et réexplorer certaines choses, mais... Voilà, là en tout cas ça m'a laissé sur ma faim.
On va passer à la review que vous attendez depuis cette intro épique. La review surprise de Mister and Ebony sur Batman Eternal 51. Garantie sans spoiler, évidemment.
Ouais, alors Scott Snyder, James Tynion IV sont au scénario, enfin plus précisément James Tynion IV hein, est crédité pour vraiment l'histoire de ce numéro. Ray Fox, Kyle Higgins, Tim Seeley sont en artiste consultant. Les dessins sont de Alvaro Martinez et on a Raul Fernandez qui est à l'ancrage. Eh bien alors, je m'étais pris une grosse claque in the face,
In your
motherfucker.
face!
Dans le dernier épisode, hein, ce 50e épisode, qui nous révélait qui était derrière tout ça dans Batman Eternal, qui avait tout manigancé depuis le début. Et ma foi, c'était super plaisant. Je m'étais dit, ah là là, j'avais pas vu ça venir. Quelle bonne idée, c'est génial.
Ah, tu étais dithyrambique, hein, la semaine dernière.
Ah oui. Eh ben oui.
Et ça, c'était la semaine dernière.
Et ça, c'était la semaine dernière. Parce que là, en une page, mes amis. En une page, il y a le twist, je crois, le plus moisi de tous les temps de l'histoire des comics, ou quasiment. C'est-à-dire que ils étaient sur un truc génial, il y avait plus rien à faire, quoi. Enfin, vraiment, il y avait plus qu'à donner quelques petites explications, voilà. Enfin voilà, c'était plié. Ils avaient une histoire géniale. Et là, ils ont tout foutu par terre en une page, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que tout le pool de scénaristes s'est rassemblé autour de Batman Eternal, autour du comics. Ils ont baissé leur froc et ils se sont dit, on va faire un gros caca dessus.
En l'image.
Voilà. Et puis alors, ils l'ont fait en rigolant. Hein. Non, non, c'est le twist le plus nul à chier. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ils ont un chef-d'œuvre et ils en font, mais alors un truc, mais c'est. Ah voilà, là, je suis désespéré. Je suis vraiment désespéré. Avec ce retournement de situation, on passe d'un des meilleurs comics que j'ai lu récemment à un truc totalement inutile du coup. Là, ça vient d'annuler tout l'intérêt que j'avais pour cette série. Voilà, en une page quoi.
Iras-tu voir le dernier seulement la semaine prochaine?
Bah. Je dirais, franchement, pour avoir tout lu jusque-là, enfin quasiment tout lu, pour avoir lu une bonne partie, oui, quand même, j'irais faire l'effort de le lire, mais bon,
À contre-cœur, quoi.
c'est-à-dire que pour qui n'aurait pas commencé cette série, en voyant ça, j'ai envie de leur dire, n'essayez même pas, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Le voyage était tellement parfait, quoi, la destination finale. Était grandiose Et ils ont vraiment mais tout foutu par terre, quoi. Mais en une case, c'est radical. Et d'une manière mais tellement ridicule, tellement cliché, tellement... Oh, mon Dieu, c'est...
Ah, tu me vends du rêve, tu me vends du rêve.
Ah oui, mais c'est intriguant en même temps, hein, ce que
ça,
je
ça donne envie
raconte.
D'aller feuilleter et de découvrir.
Ça donne envie quand même de savoir, mais qu'est-ce que ça peut être ça, quoi. Non, mais c'est aussi pourri que, voilà, Batman, dans l'une de ses plus grandes aventures, arrive, il va choper le mec, et puis d'un seul coup, il se tord le pied, et puis il fait « Oh, Alfred, Alfred, j'ai mal !»« Vite, enfuitez-moi !» C'est aussi nul. Bon, ça n'a rien à voir, hein, ce qu'il y a là-dedans, mais c'est aussi con, quoi. Allez, bon, bref, l'épisode de la semaine dernière, à titre de comparaison, était tellement bon que c'était un bail ultime, et là, c'est un bon gros pass. In your face, motherfucker! Voilà.
Bien, bah ça vend du rêve, ça donne envie. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas vous aussi à nous dire hein, dans les commentaires de cette émission si jamais cet épisode vous a profondément déçu ou si, contrairement à Benny, vous l'avez trouvé génial, peut-être. Mmh. Va savoir.
Ça fera marrer quelques personnes. Voilà. Je n'en dis pas plus.
On passe au TP de la semaine chez DC. On a Adventures of Superman, le troisième TP, écrit par Jim Kruger, avec des dessins notamment de Dean Edwards, entre autres. C'est le Superman en digital, avec les épisodes 11 à 17, hein, qui étaient collectés en papier, donc dans les épisodes 11 à 17, qui sort en TP. C'est au prix de $17. Nous avons aussi chez DC la fin. Il était temps quand même, hein, depuis le temps que c'est sorti, la fin de All-Star Western pour ceux qui suivaient la série en TP. Le dernier TP est enfin disponible au prix de $15 avec les épisodes 29 à 34. Ça fait un bout de temps que c'est fini de sortir hein, quand même. Il se presse vraiment pas sur les TP chez DC.
Ouais, sur les petites licences, ouais.
Nous avons aussi en hardcover, toujours dans la partie digitale mais ensuite adaptée en papier, le gros crossover Batman 66 Meet the Green Hornet, écrit par Kevin Smith avec des dessins de Ty Templeton. Ça reprend donc les 6 épisodes parus en format papier, qui étaient les 12 épisodes digitaux. C'est au prix de $23, hein, c'est du hardcover.
Série vraiment très très sympa, hein. D'ailleurs, j'ai bien envie de me la faire entièrement, cette série, parce que, voilà, j'en ai lu quelques-uns, pour le fun, en me disant que bon, allez, voilà, ça me rappellera la série des années 60, et franchement, c'est prenant, quoi, c'est marrant. Et j'ai vu qu'ils allaient introduire Clayface, quand même, dans le Batman des années 60, donc c'est beau.
Bah là, c'est vraiment le crossover qu'il y avait avec Green Hornet, ouais, qui était écrit par Kevin Smith. Ouais. Donc c'est légèrement indépendant de la série Batman 66. Cependant, c'est le même esprit, le même univers.
Et cependant, il y avait eu un épisode avec Green Hornet que j'ai découvert dans ce coffret Blu-ray. Je ne savais pas du tout à la base.
Enfin, nous avons un dernier hardcover chez DC cette semaine. C'est Superman Doomed. Si vous ne suivez pas la parution française. Toute l'histoire de Doomed est collectée dans ce hardcover au prix de $50. Ça reprend donc les épisodes Superman Doomed 1 et 2, les épisodes d'Action Comics 30 à 35, Superman Wonder Woman 7 à 12, le Superman 30, l'Action Comics Annual 3, le Superman Wonder Woman Annual numéro 1, Supergirl 34 à 35 et Batman Superman 11. Voilà toutes les parties qui étaient concernées par ce crossover. Voilà, c'est tout pour DC cette semaine. Nous allons passer maintenant à notre...
C'est dommage, il n'y a pas de Batman Eternal dans les TPP. Oh.
Nous allons passer maintenant à notre partie indé. Et on démarre avec toi, Bruno, qui a été lire une curiosité de cette semaine. Il s'agit de Gem and the Holograms.
Oui, une nouvelle série chez IDW qui est écrite par Kelly Thompson avec des dessins de Sophie Campbell sur une histoire donc de Thompson et Campbell. Donc c'est le retour de la licence Gem and the Holograms qu'on a pu connaître voilà dans les années 80 avec un dessin animé qui était assez rigolo. Ça m'est arrivé de voir quelques épisodes, alors j'étais pas un grand fan hein, mais bon, je connaissais 2-3 concepts.
Mais tu faisais la coupe quand même.
Il y avait
des coupes de cheveux et tout, puis
des
tu sortais
de cheveux qui étaient assez fous.
Tu sortais la guitare et tu faisais yeah.
Capillairement improbable, oui.
Qui opposait donc Jem et son groupe à un autre groupe concurrent qui s'appelait les Misfits, et ils utilisaient en fait le pouvoir d'un ordinateur qui s'appelait Synergy, qui leur permettait d'avoir des hologrammes et du coup d'avoir une représentation un petit peu différente sur scène avec des femmes plus âgées qu'elles ne l'étaient. Et donc là
ça vend du rêve en tout cas hein, le concept hein.
Bah, c'était clairement un comics plutôt, on va dire, ciblé pour le
Un
public
dessin animé, tu
féminin.
veux dire?
Oui, un dessin animé plutôt pour le public féminin, voilà, avec deux groupes de filles qui s'opposent et des musiciennes. Là, le comics, ça reprend vraiment trait pour trait ce qu'on avait pu voir en dessin animé. Ça commence avec bah, justement l'héroïne principale qui a le trac, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de pouvoir chanter face à la foule, et donc elle met en péril son groupe. Puisque là, ils doivent faire absolument un clip musical pour pouvoir remporter un concours.
Le suspense est à son comble.
Voilà. Donc, ça crée des tensions dans le groupe entre bah, la chanteuse et sa sœur. Finalement, elle craque et tout. Et donc, elle s'enfuit. Elle retourne dans sa maison familiale. Et là, elle va découvrir qu'en fait, son père, qui était décédé il y a quelques temps, était un inventeur et qu'il avait créé justement une intelligence artificielle qui s'appelait Synergie. Et qui lui permettra de créer des hologrammes, et ça va donc lui redonner confiance, et ça va pouvoir les lancer dans le bain en sortant leur clip vidéo.
Donc ça repart vraiment de zéro, quoi.
Voilà, ça repart de zéro, ça raconte les origines, c'est pas une suite du dessin animé, c'est vraiment il réimagine Jam et les hologrammes en version comics
Est-ce qu'ils ont fait des variantes cover hologrammes?
avec.
Oh, attention!
Non, par
Il y a
contre, ils
plein
ont
de
fait un
variantes
paquet de
cover,
variantes
mais
cover
y a pas de variante hologramme.
sur chaque membre du groupe, en fait.
Ouais, mais
Ah.
graphiquement c'est très joli. Voilà, c'est très net, très précis. Il y a des jolies
Je sais pas
couleurs.
si tu avais donné le nom de l'artiste.
Voilà,
Je
Sophie Campbell.
sais que tu avais annoncé le scénariste, mais je me rappelle pas si tu avais annoncé
Voilà,
le.
c'était Sophie Campbell. Voilà, qui avait travaillé sur Glory. Ça pourra. C'est un peu le même style de dessin qu'il y avait sur Glory, sauf qu'il n'y a pas le côté grim
Gritty.
and gritty. Voilà. De Glory, qui était quand même assez badass, mais voilà, c'est très coloré, très rond au niveau des dessins, et voilà, moi j'ai trouvé ça sympathique à suivre. Alors clairement, on va dire que c'est quand même plutôt le public féminin qui est recherché avec ce comics,
Et
mais
puis, rappelons quand même pourquoi on déterre la licence, parce qu'on la déterre pas juste comme ça, juste pour le fun.
exactement, puisqu'il y a un film qui est prévu, si je dis pas de bêtises,
Oui.
voilà, donc
Qui, si ma mémoire est bonne, sort cet été.
voilà, donc c'est une licence qu'ils essaient
Je
de
crois.
remettre un petit peu sur le devant de la scène, voilà, comme le groupe,
Oh.
et c'est plutôt du bel
Oh, c'est
ouvrage,
du génie.
donc pour moi c'est un bon check-it,
Ah oui, carrément,
voilà, une
check-it.
ouais, quand même un check-it,
T'as pris ton pied
une curiosité,
sur
voilà,
cet épisode.
ouais, c'est frais, ça se lit bien, j'irai voir la suite, je pense.
Apparemment, je viens de vérifier la date de sortie du film aux USA, en tout cas prévue pour le 23 octobre.
C'était pas du tout ça.
On n'a pas vu d'image pour l'instant, mais.
Je croyais que c'était cet été, non, c'est un peu plus tard.
Ouais. Biscuit, biscuit, rage.
On passe à la suite du programme. Benny, tu nous parles de Walking Dead.
Ah merde, 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 je suis pas prêt.
Ah, c'est
Oh
à
putain,
toi.
oh, c'est
fais
l'épisode
chier!
132 d'ailleurs, hein, cette
Putain
semaine.
de merde, de
Il va falloir qu'on
chier!
trouve les crédits, vite, vite, vite.
Oui, non, mais non, mais
Bon
c'est
bah là,
Robert
ça va.
Kirkman.
C'est bien
Robert
les seuls dont
Kirkman.
il peut se passer.
Charlie Adlard et Stefano Godiano à l'ancrage, quand même. Nous n'oublions pas. Eh ben, ma foi, c'était un épisode pas du tout intéressant. Cette fois-ci, voilà. Pourtant, la couverture était intrigante. Je me suis dit, tiens, enfin, Rick et toute sa clique ont décidé de prendre la voie des océans pour être plus tranquille, hein. C'est vrai que vivre peut-être sur des embarcations comme ça au milieu de l'eau, hein, c'était plus sûr que de vivre sur Terre, finalement, avec des zombies partout. En fait, pas du tout.
Waterworld
C'est pas du tout le thème de l'épisode. Il va simplement retrouver Michonne, qui était partie effectivement faire un petit voyage. Et puis donc ils discutent et
comme
bah
dans
voilà,
Walking Dead,
c'est
comme d'habitude, ils discutent.
voilà, c'est ils discutent comme si c'était écrit par Bendis. Bon, un peu mieux. Il y a moins de What's up, dude.
D'ailleurs, j'ai annoncé le numéro 132, je me plante, c'est le numéro 139, autant pour moi.
139 déjà,
Oui, j'ai
139
annoncé
d'épisode.
132 parce que c'était mal écrit sur le conducteur, c'est excusez-moi.
Ouais, bah c'est peut-être moi qui suis 132 tout à l'heure.
Oui, parce que toi, t'as carrément dit que c'était le Walking Dead 32.
Ouais,
Walking
bon.
Dead.
Toujours est-il que le Walking Dead aussi.
Wonking.
Ça, c'est dans Crost.
Voilà. Oui, beaucoup même, trop. Mais voilà, bah vraiment pas un épisode super passionnant. Les motivations de Michonne, les raisons pour lesquelles elle avait quitté la terre ferme, tombe sous le sens, hein. Voilà, on fait un petit peu dans le pathos, mais
Classique.
c'est pas très intéressant. Honnêtement, on peut zapper cet épisode Et je pense que on le regrettera pas, quoi.
Mais on sait que les lecteurs de Walking Dead ne le feront pas, de toute façon.
Oui, oui, voilà, les lecteurs iront lire religieusement cet épisode comme tous les autres. Mais bon, c'est vraiment pas le plus passionnant, donc petite forme pour Walking Dead ce mois-ci.
Alors on continue avec un autre projet, cette fois-ci c'est chez Dark Horse, une nouvelle série de Matt Kint, ça s'appelle Past Ways. La sollicitation me paraissait super intéressante, et la sollicitation, bah c'est simple, hein, c'est un peu ce qu'on a sur la page de récap. Oui, c'est un numéro 1, on a une page de récap, et non, ce n'est pas la suite d'un projet, c'est vraiment comme ça que ça se présente.
À noter qu'il y avait quand même un numéro 0 dans le Dark Horse Presents.
Que je n'ai pas lu, comme ça c'est bien fait pour ma gueule.
Effectivement, comment il se retrouvait là.
C'est bien fait pour ta gueule.
Bon, enfin, on peut prendre l'histoire comme ça, remarque, ça apportait peut-être des clés parce que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, honnêtement. Donc, série de Matt Kint avec des dessins de Scott Collins et une colorisation de Bill Crabtree. L'histoire, c'est simple, c'est qu'on a des gens qui sont perdus et coincés dans le temps à notre époque, et ces gens-là sont coincés à 1,2 million d'années de leur époque. Et oui, ils viennent d'1,2 million d'années. Plus loin que notre époque. Donc c'est bien, ça nous rassure, Matt Kint est optimiste, il y aura encore de l'humanité dans 1 million 2 d'années.
Bah oui.
Moi j'y crois pas, mais bon, honnêtement j'y crois pas du tout. Et eh bien ils sont coincés depuis un an maintenant, et bah, chacun a mené un peu sa petite vie, on va découvrir peu à peu les personnages, et honnêtement j'ai vraiment du mal à m'attacher à ces personnages-là. Je sais pas, les personnages sont tous m'ont tous l'air d'être un peu cons à leur manière. Voilà. Je sais pas vraiment quoi dire. On a donc un événement qui se passe, qui va peut-être leur permettre de rentrer, puisqu'ils ont enfin découvert un catalyseur, un événement, un événement qui prend la forme d'une apparition d'un espèce de dinosaure, si on peut dire, ou un espèce de dragon, qui n'a pas l'air d'être à son époque, et qui leur permettra peut-être de repartir enfin dans le temps qui est le leur. Les personnages, certains ne s'aiment pas, essaient de se tuer les uns les autres. On apprend des choses intéressantes comme le fait qu'ils ne peuvent pas mourir vu qu'ils ne sont pas à leur époque.
Bon, et donc ils sont à notre époque par contre.
Ouais.
Et ils en profitent même pas pour se poser devant la télé, regarder la télé-réalité, ce genre de choses.
Ah, mais pour eux, enfin notre époque est juste une époque de merde, quoi.
Pour eux, en fait, ça paraît tellement pourri par rapport à leur vie que effectivement ils se font chier. Mais ils se sont séparés et chacun vit un peu une vie à part, dont le leader qui lui reste dans son vaisseau, voilà, dans sa base secrète, à attendre coûte que coûte qu'un jour il se passe un événement pour rassembler son équipe.
Est-ce vraiment le leader ? J'ai pas l'impression que ce soit vraiment lui le leader de l'équipe. Moi, j'ai plus l'impression que c'est le mec qui va chercher dans le volcan le leader.
Bah, sur la page de garde, c'est marqué team leader pour lui, mais effectivement, ils s'entendent pas du tout entre le team leader et celui qui est sur le volcan, donc. Je te rejoins sur les personnages, c'est assez cliché. Mis à part, je trouvais ça assez marrant, c'est la nana qui veut absolument mourir par tous les moyens et qui n'y arrive pas, et donc elle essaie de créer des machines pour se suicider, et ça m'a fait assez marrer. Mais pour le reste, on va dire que c'est vraiment pas très original, même si le pitch effectivement pouvait amener des choses marrantes.
Ben ouais, moi la sollicitation m'avait vendu le truc et j'étais un peu refroidi là, honnêtement.
Il y a deux trois scènes assez fun. Enfin, il y a la façon dont ils arrivent à capturer le dragon
oui,
à base
voilà.
De doigts dans le cul, on va dire. Ça m'a fait marrer quand même. Mais sinon, ouais, c'est pas sensationnel, on va dire.
Tout comme dans Mind Management, on a pas mal d'annotations en bas de page hein, qui nous expliquent un petit peu certains concepts futuristes ou certaines ouais. Machines futuristes qu'ils utilisent.
Ça c'est rigolo ça. Ça c'est
à la rigueur, c'est presque le plus intéressant du numéro, j'ai envie de dire. Et puis ce qu'on a après, l'espèce de petit, je sais pas si tu l'as lu hein, Bruno, cette espèce de d'histoire.
Non,
en
ça
page.
Par contre j'ai pas lu. Ouais, la page à la fin. Là.
Qui était pas mal, qui raconte simplement la journée d'un de ces hommes du futur,
documentaliste,
qui a voulu aller se rendre dans une librairie pour acheter un bouquin et qui a eu du mal et qui a fini par bon, je vous laisse lire parce que c'est quand même assez intéressant, je vous laisse découvrir même si c'est assez drôle. C'est encore une fois assez drôle parce que c'est à base de pipi caca. Mais...
D'accord, oui, donc ça reste un peu dans l'esprit.
Mais franchement, j'ai pas été séduit. J'ai vraiment été déçu au point que je ne sais pas si j'irai voir la suite.
Je suis pas sûr moi non plus. Par contre, Scott Collins, je suis vraiment pas fan d'habitude et j'ai trouvé que là le boulot était pas mal. C'était assez net. Ça m'a, j'ai
Bon, il
trouvé
n'a
ça
pas mis
moins
trop
désagréable que des
de.
épisodes de
Oui.
Flash qu'il a pu faire il y a quelques temps. Et...
Il n'en a pas trop mis partout, des
Ouais.
lignes, des plis, des choses comme il aime faire habituellement.
Ouais. Là, j'ai trouvé ça quand même plus réussi que d'autres de ses travaux. Mais voilà, ouais, effectivement, pour moi, ça, c'est vraiment du
Pas
petit check-it, quoi.
séduit, même
Limite du pass.
moi c'est un check-it, moi à la limite du pass aussi. Honnêtement, peut-être pas la cible, j'ai du mal avec les projets de Matt Kint, honnêtement. Vraiment, j'ai du mal. Et bah, moi, je vous encourage pas à aller le voir, mais si le pitch qu'on vous en a fait, même si on a vraiment eu du mal à être très enthousiaste, vous a plu, allez jeter un œil. À ce moment-là, effectivement, vous êtes peut-être la cible. Moi, je trouve pas ça très bon, honnêtement.
Disons qu'ils essayent de faire délirant, mais ça part pas assez dans le délire du coup.
Ouais, ça
C'est ça.
reste trop soft finalement, c'est
Après,
trop
peut-être
sage.
que par la suite ça sera mieux, mais là c'est vraiment trop soft. Ouais.
Ouais, mais dans l'économie actuelle, hautement,
Exactement.
mettre tant d'argent et attendre 3-4 numéros avant que ça décolle vraiment, est-ce que c'est vraiment la solution?
Et puis
Ras-le-bol
bon,
de
les
cette
histoires de
écriture en
voyageurs
arc.
dans le temps, on en a soupé, hein.
Non, mais ras-le-bol de cette écriture en arc qui nous impose à lire un arc complet pour se rendre compte si la série est bonne ou pas. À ce moment-là, sortez un putain de graphic novel directement. Enfin, vous
C'était une
foutez
bonne
pas de notre
imitation
gueule,
de
quoi.
Sam, hein, Bruno. C'était vraiment très très bien.
Allez, on passe à toi, Benny. On revient vers toi qui repart sur un titre Image. Ça s'appelle Dream Police, qui est enfin de retour.
Oui, Dream Police par J. Michael Straczynski et Sid Kotian peut-être au dessin, avec Juan Fernandez à la colorisation. Alors souvenez-vous, Dream Police, c'était un petit peu une série coup de cœur pour moi. Cette série qui est publiée chez Image, mais en collaboration avec Joz Comics, hein, la branche de comics de
Oui, c'est
DMS.
un sous-label
Un sous-label.
comme Kirkman a son label Skybound.
Voilà. Une série que j'aime particulièrement, puisque déjà le postulat de départ me fait bien marrer, c'est les flics du rêve, quoi. Il y a les Men in Black qui s'occupent de régler un petit peu les problèmes qu'on a avec nos voisins extraterrestres. Et ben eux, ils s'occupent de régler les problèmes avec les créatures de cauchemars, ce genre de choses, à veiller à ce que tout se passe bien en fait dans le monde des rêves. Et le personnage principal, dont j'ai oublié le nom, Joe Stanton, je crois, ou c'est Frank. C'est Joe Thursday, c'est le truc qui a rien à voir. Joe Thursday, le personnage principal. Qui, rappelez-vous, dans les premiers épisodes, était avec un collègue qui s'appelait Frank Stafford. Et Frank Stafford, il se rendait compte que peut-être il n'existait pas, puisque après il se retrouvait avec une femme en tant que collègue, et il avait l'impression d'avoir totalement imaginé son autre collègue. Donc il y a quelque chose de très mystérieux. On essaye de le manipuler, il comprend pas trop ce qui se passe. Donc là, en fait, les deux équipiers décident d'aller dans un endroit un peu particulier, qui s'appelle The Verge. On va pas traduire ce que c'est pour une question de décence. Non, bien sûr, ça veut pas dire ce que vous pensez, mais voilà. Donc ils essayent d'aller dans cet endroit pour avoir des réponses, et bien sûr, ils se mettent à dos toute la police du rêve, qui essaye de les arrêter dans leur périple. Ma foi, c'est toujours très très bon, très très prenant, très très fun à lire. Surtout la manière dont ils arrivent à s'échapper à la fin à l'aide d'un jeune garçon qui est en train de rêver, et qui, grâce au fait à ce que ce garçon imagine dans son rêve, eh bien ils arrivent à se tirer d'un mauvais pas, et c'est assez jouissif. Voilà, donc il y a vraiment toujours ce concept très 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 intéressant que JMS exploite à merveille. Et voilà. Donc très bonne série. Je vous encourage vraiment à aller voir du côté de Dream Police, malgré le fait que effectivement ça sort pas tous les mois, hein, c'est un petit peu hachuré comme parution.
Mais est-ce que
On est
c'est le
à 6
début d'un nouvel
numéros.
arc là?
Non non non, non c'est toujours la suite de bah même du premier, hein. Voilà, on est toujours dans cette intrigue, dans ce fil rouge au fait depuis le premier épisode. Je me rappelle que le premier était sorti, pour vous donner une indication, à l'époque de la sortie de Amazing Spider-Man numéro 2. Donc
Le
ça.
5, le cinquième est sorti le 12 novembre. Donc ça fait
Ah oui.
effectivement plusieurs
Ouais.
mois qu'on
Ouais,
attendait ce
effectivement, bah
numéro.
oui, tiens, tiens, c'est étonnant. Je savais pas, je me suis pas rendu compte que ça faisait autant de temps. Ah oui, effectivement, ça commence à faire. Mais je me souviens très bien du numéro 5, preuve que j'ai beaucoup aimé. Donc du coup voilà, bah en tout
Ah, là, il
cas.
pourra pas dire que c'est un problème de dessinateur qui a disparu. Ou alors il
Hein,
a
hein.
vraiment, vraiment pas de bol.
dans Rome et son dessin.
A priori, c'est la fin du premier arc, le 6.
Bah ouais, bon, enfin, on est toujours sur la même intrigue. Enfin, quoi qu'il en soit, très bonne série. Bon, je vous encourage évidemment plutôt de vous intéresser au TPB, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert, du coup. Voilà, prenez-la en TPB, comme Sidekick, que j'avais essayé en VF, qui était aussi très très bon, comme série de JMS. Donc voilà. Toujours très bien, bon bail.
On continue avec du IDW, il s'agit de Joe Frankenstein, une série écrite par Graham Nolan avec Chuck Dixon en co-scénariste. Graham Nolan est aussi d'ailleurs le dessinateur de cet épisode et de cette série d'ailleurs. C'est un concept un peu foufou, c'est sorti le mois dernier pour le numéro 1, on est au deuxième épisode. Et la trame, c'est simplement qu'un jeune garçon, livreur de pizza, qui s'appelle Joe, est en fait le descendant du docteur Frankenstein, qui avait donc créé le monstre.
Je croyais que c'était un petit peu différent, je croyais que c'était un gars qui livrait une pizza à Frankenstein, d'où le titre. Mais en fait,
non,
d'accord.
Non, il est le descendant, sans même le savoir, hein, de la famille de Victor Frankenstein, le savant fou. Et alors qu'il amène des pizzas à ce qui s'avère être en fait une bande de vampires qui ne sont là que pour le dévorer, débarque la créature de Frankenstein qui veut à tout prix le protéger puisqu'il a réussi à retrouver sa trace, la trace d'un des descendants de son créateur. Et on comprend que cette bande de vampires était en fait à la recherche de ce Joe sans vraiment savoir au départ que c'était lui qu'elles attiraient dans leur filet, et que tout ça est un plan bien mené par nul autre que le grand méchant de l'histoire, à savoir la fiancée de Frankenstein. Rappelez-vous tous ces films Hammer, si vous aimez,
oui,
cette ambiance,
ouais.
C'est totalement ça, complètement foufou, avec un petit côté vraiment pour jeunes. Ça serait très très bien d'adapter en dessin animé de toute façon.
Ah oui, d'accord. Donc c'est pas.
Il y a de temps en temps un petit peu plus de violence que pour un dessin animé pour enfants, mais néanmoins ça reste gentillé. Ouais, bon, on a quand même un mec qui se fait éclater la tête à grands coups de pied, mais.
C'est relativement
peu montré, ce qui fait que ça peut rester à pas montrer à des enfants de 6 ans, mais bon, des enfants de 10 ans peuvent le lire, quoi. Je pense qu'ils ont vu pire dans les jeux vidéo auxquels ils jouent.
Et, quelle jeunesse décadente.
On va apprendre
pense que l'humanité va durer longtemps comme ça, et bah voilà.
On va apprendre dans ce deuxième numéro quel est le plan exact de la fiancée de Frankenstein, pourquoi elle le recherche, dans quel but, et ce qui va devenir de la famille de Joe, sa famille adoptive. Bonne scène de baston. Finalement, même si l'histoire avance relativement peu, il se passe vraiment pas mal de choses, on a pas mal d'éléments de lecture à faire. Vraiment, c'est moi j'aime beaucoup cette série, c'est un petit côté fun, un petit côté jeune et non pas enfantin, que je trouve séduisant, et j'aime beaucoup cette série, en fait. Voilà, je prends mon pied avec ça. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas le truc qui révolutionnera le comics, évidemment. Mais voilà, ça fait son boulot, ça le fait bien. C'est une mini-série en quatre, on est arrivé à la moitié. J'ai hâte de découvrir la suite et la fin de cette série, en tout cas. Donc pour moi, c'est un bon petit bail, quoi. Voilà, une bonne petite lecture, bien fun et bien sympathique, et pas forcément une lecture à licence. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe, hein, dans les commentaires. Évidemment, il y a peut-être une série ou un dessin animé de Joe Frankenstein qui existe dont je ne connaîtrai pas l'existence. Notre dernier review indé de la semaine, c'est Bunny qui s'en charge avec la sortie du cinquième épisode de Witches. White Cheese, moi, comme j'aime bien l'appeler.
Non,
parce que je sais
Witches.
Que tu n'aimes pas, mais je m'en fous.
Witches et Grayson. Et voilà, et tout ça. Scott Snyder est au scénario et
Blood of the Grayson in the Witches.
Ouais. Et Jock est au dessin, avec une colorisation de Matt Hollingsworth. On va y arriver. Voilà. Donc, toujours cette intrigue avec les sorcières planquées dans des troncs d'arbres de Scott Snyder, qui a révolutionné donc ce mythe, qui a dépoussiéré un petit peu ce mythe de la vieille sorcière et son manche à balai. Là, elle l'a plus dans les fesses, elle est carrément dedans, en fait. Bon, bref. Où est-ce que je vais là-dedans?
Oui, mais justement, on essayait de pas t'entraîner trop, parce qu'on pensait que ça allait s'arrêter tout seul, mais non.
Mais non. Non. Bah, c'est-à-dire que, voilà, donc on est toujours avec ce père de famille qui recherche sa fille Sailor, hein, qui aurait été enlevée par des sorcières. Donc là, il arrive vraiment lui-même dans le monde infernal des sorcières. qu'on découvre encore plus dans cet épisode. Je dirais que le problème de cette série, c'est peut-être que Snyder nous en a montré trop vite. Peut-être qu'il aurait été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prenant et l'ambiance aussi aurait été bien meilleure si justement il nous avait fait des révélations en filigrane et qu'on n'avait pas vu vraiment une sorcière au bout de trois pages quoi. Voilà, qui laisse planer un mystère parce que là vraiment il nous expose tout le folklore autour des sorcières et j'ai pratiquement envie de dire mais qu'est-ce qui lui reste à nous montrer. Et d'ailleurs à la fin de cet épisode ça m'a intrigué, il y a un to be concluded. Alors est-ce que c'est juste pour dire que bon bah voilà le premier arc s'achève avec le numéro 6 ou est-ce qu'ils vont faire comme avec American Vampire des saisons en fait pour Witches? Je ne sais pas Bruno si tu as des renseignements là-dessus sur les sorties de Witches, comment ça va se passer.
Mais je regarde ça en même temps que tu parles, mais pour l'instant il n'y a pas de sollicitation pour l'épisode 7 effectivement.
Donc voilà, peut-être qu'ils vont faire des.
Rappelons que nous sommes chez Image et que maintenant la mode hein, chez Image depuis Saga, c'est de faire un arc, le sortir en TP et puis revenir quelques mois plus tard pour la suite quand le dessinateur a pu prendre de l'avance, quand ils ont pu se reposer et faire d'autres projets en même temps. Et aussi de faire rentrer l'argent dans les caisses avec la vente de TP, puisque rappelons qu'ils sont quand même pas mal sur leur propre fonds.
Le TP sortira en juin, donc peut-être que dans les sollicitations de juillet, on aura effectivement un White Cheese numéro 7.
Je noterai quand même dans cette review le plus énorme reste la prononciation de Benny, hein, le « to be concluded ». J'ai trouvé magistral.
« To be concluded ». Non mais... du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, justement, est-ce que ces personnages ne vont pas y passer les personnages humains hein, est-ce qu'on va peut-être passer totalement à autre chose comme American Vampire, une totale autre histoire? Moi, j'aimerais bien personnellement
American
parce
Vampire,
que
American Vampire, ça reste les mêmes personnages. Hein.
Oui, enfin.
C'est juste l'époque qui change. Hein.
Ouais. Oui, enfin, je parle des personnages humains, pas les vampires, du coup.
Mais les personnages principaux sont des vampires.
Oui, bon bah d'accord. Bon, bah. S'il y a des personnages humains, voilà, dans cette intrigue, là, pour Witches en l'occurrence, ce serait bien que ça se passe à une autre époque, peut-être justement il y a 1000 ans ou 1000 ans dans le futur, ou je sais pas, enfin que ça change d'air, peut-être ce serait pas mal. Parce que bon, je pense qu'on a fait le tour justement de ces personnages. Voilà, peut-être le plus intéressant, c'est effectivement la mythologie autour des sorcières. Mais bon, d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il en a dit déjà pas mal, donc je vois pas au fait comment ça peut continuer longtemps. J'ai effectivement l'impression de mater un film et que la conclusion, bah les 20 dernières minutes, c'est pour le numéro 6. Donc on verra. Mais to be concluded, voilà.
Je me rappelle pas pourtant que ça avait été vendu comme une mini, hein. Je me rappelle que ça avait été vendu comme un ongoing, donc je suis assez surpris.
Ah ben pourquoi?
Alors que Bruno nous partage une news qui me fait tellement rire.
Mais ça me fait rire parce que t'avais faux et en même temps t'avais raison. Voilà.
Bah on peut le dire, hein.
Oui, disons-le, tant pis.
C'est news,
hein.
De toute façon.
On a l'affiche de Uncanny Inhumans où il y avait des silhouettes qui étaient grisées et hier on en parlait, Steve se moquait un petit peu du personnage d'Inferno qui ressemblait à la torche humaine, donc il avait dit qu'il y avait la torche humaine dans les Uncanny Inhumans et effectivement dans les silhouettes qui étaient cachées il y avait bel et bien Johnny Storm qui était présent
et donc, et moi
il y avait pas Miss Marvel
et moi je vous disais que les 4 fantastiques c'était des inhumains dans la nouvelle continuité. Et qu'est-ce que vient foutre Johnny Storm chez les Inhumains, quoi?
Il y a un grand passif hein, quand même entre Johnny Storm et les Inhumains, hein, donc sa relation avec Crystal, je pense, sera peut-être à la base du truc.
Ouais. Et on a la révélation de qui sont les Avengers qui restaient dans cette équipe, All New, All Different Avengers. Mais de toute façon, on avait tout
bon hier. On garde ça pour la semaine
donc,
prochaine.
Donc, vous écouterez ça dans le Weekly News qui est sorti, hein, je crois.
Oui, il est sorti.
Bah, de toute façon, il est sorti au moment où vous écouterez, c'est pareil.
Non, je l'ai publié en fin d'après-midi, voilà. Travailler d'arrache-pied pour pouvoir vous le sortir.
Donc, ce sera pas en fin d'après-midi samedi, puisque vous écouterez ça samedi. Ça devient compliqué, hein, tout ça, la continuité.
Mind-blowing.
Ouais, c'est comme Arkham Manor, Batman Eternal et Batman. C'est très difficile à suivre.
Ouais. Ouais. Quand se situe Endgame?
Mais que font les éditeurs?
Donc, on va quand même terminer sur ta note, parce que du coup, je j'ai pas souvenir que tu l'aies donnée.
Ah, peut-être que je l'ai pas donnée. Peut-être même que je la donnerai pas. Tiens, voilà.
Garde-la, ta note.
Tiens, pas
note.
Devinez, qu'est-ce que j'aurais dit? Un petit bail. Ça reste bon, mais voilà.
Juste un truc, t'avais critiqué, tu sais, les gros splashes de couleurs,
les caca, il y a toujours ça ou pas? Ah oui.
Les planches, d'accord.
Ouais, c'est pour ça que, bon, voilà, je suis assez mitigé sur cette série. C'est pas mal écrit, c'est pas mauvais, mais bon, ça aurait pu être beaucoup mieux.
Allez, on va passer à l'avalanche de TP1D de cette semaine. On a essayé de vous faire une sélection. Tout n'est pas forcément à votre goût, tout n'est pas forcément intéressant, mais ce sont les choses les plus notables, en tout cas, qui me sont passées sous les yeux. On a notamment chez Dark Horse qui, avec un deal avec Archie, ressort en édition très luxueuse des tout premiers numéros d'Archie des années 40 et 50. Et là, c'est notamment Jughead, son copain avec celui qui a la couronne, hein, tout le temps, celui qui est très très riche. Ça vaut $50, ça reprend les 8 premiers épisodes, hein, qui ont été publiés, entre 1949 et 1950. Donc, les Jughead Archives, si jamais vous voulez découvrir vraiment le tout début de cette ligne de comics Archie, que vous êtes fan, enfin, pour découvrir $50, c'est un peu cher, en effet, mais si vous êtes vraiment très fan, c'est peut-être un bon moyen de se les procurer dans une édition hyper luxueuse.
Et c'est le prix de la découverte avec Comic City. On vous propose quelquefois des trucs à $150 pour découvrir quelque chose.
Chez Dynamite maintenant, nous avons un omnibus de Peter Cannon Thunderbolt. Je n'ai pas la composition exacte de ce omnibus. Il y a, je suis sûr en tout cas, les 10 numéros de la série Peter Cannon Thunderbolt, hein, de ce monde de Superpowers, Project Superpowers, rappelez-vous. Si vous êtes fan de cet univers créé par Alex Ross et Jim Kruger, hein, je crois de mémoire, qui travaillaient ensemble pour Project Superpowers, et que vous avez aimé ce personnage de Peter Cannon Thunderbolt, voilà, en édition omnibus. Il y a aussi des galeries de covers, des origin stories de Peter Cannon Thunderbolt de l'époque, hein, puisque rappelons que c'était un personnage qui était tombé dans le domaine public, comme tous les personnages de Project Superpowers. Voilà, des planches commentées, ce genre de choses. Ça vaut $30.
Alors du coup, j'ai pas compris, c'est de l'ancien ou c'est du nouveau matériel?
Non, c'est du récent, c'est les 10 épisodes qui étaient chez Dynamite, mais il y a aussi du très ancien, puisqu'on a l'origin story par le créateur lui-même du personnage. Nous avons aussi chez Dynamite, au prix de $15, le dernier TPB de la série Twilight Zone, puisque la série s'est arrêtée, elle continue maintenant sous forme de mini-série, écrite par J. Michael Straczynski, s'appelle The Way Back, c'est au prix de $16, donc les 4 derniers épisodes, pardon, je crois, de la série, puisque la série s'est arrêtée au numéro 12.
Ouais.
Encore chez Dynamite, les Vampirella Archives, volume 11, avec les magazines 72 et 79, paru il y a fort longtemps de ça. On a du Bruce Jones, on a du José González, on a du Len Wein, du Steven Gellart, du Carrie Bates, pour ce qui est la partie scénario. Au niveau du dessin, on a du Ruth East aussi, on a du Bob Larkin, enfin voilà, vraiment pas mal de monde sont passés sur Vampirella, et n'y voyez pas de Van Salas, s'il vous plaît, à travers les âges, si vous voulez redécouvrir ces Vampirella qui sont aujourd'hui très difficiles à trouver. C'est au prix de $50 dans cette série des Archives. Chez Fantagraphics, du vieux aussi, Walt Disney Donald Duck, c'est un graphic novel, enfin c'est du vieux. En tout cas, c'est du Karl Barks. Ça s'appelle Sheriff Bullet Valley, pour tous les fans de l'univers Disney, qui n'est pas vraiment revenu à ma connaissance chez Marvel encore. Ce qui est assez étrange.
Non, c'est IDW qui va sortir les nouvelles séries.
Ouais, c'est assez étrange. Marvel a de quoi sortir avec son deal avec Disney, de quoi sortir des comics Disney au sein d'une ligne à part, et ne le fait pas. Confie ça à IDW. Là, en tout cas, ce graphic novel est sorti chez Fantagraphics. C'est au prix de $10. Chez Top Shelf maintenant, Nemo River of Ghosts de Alan Moore et Kevin O'Neill, un nouveau graphique novel, hein, dans le monde Alan Moore. Voilà, troisième volume, c'est au prix de $15. Je voulais mentionner la sortie notamment de ce tome. Nous avons maintenant chez Image beaucoup de choses. Vous aimez Sex Criminals, cette série de Matt Fraction et de Chip Zdarsky?
Non, pourquoi?
Eh bien, voici... Voici les 10 premiers numéros collectés dans une édition hardcover.
Ah bah, j'en ai rien à foutre. Hein. Ouais, j'en ai rien à foutre.
$40.
J'achèterai voilà. pas.
C'est vraiment un gros gros volume très luxueux si vraiment vous voulez vous procurer cette série dans un gros 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 format.
D'ailleurs, il s'appelle le Big Hard Sex.
Voilà. Criminal. Ça veut tout dire. Criminal volume 3 est sorti, The Dead and the Dying.
Ah.
Tu t'en rappelles, Edge Brubaker, Sean Phillips.
Et voilà, oui.
Ressorti de ces Criminal chez Image, hein, puisque Brubaker et Phillips ont récupéré les droits de chez Icon, ça y est. Donc ils ont pu ressortir ça dans leur nouvelle maison qui est Image Comics actuellement, sous prix de $15. Si vous ne les aviez pas, jetez-vous dessus.
Ah oui, c'est très bon. N'en déplaise à Cerveau.
Oui.
Eh oui. Eh oui, j'aime pas.
Qui n'aime pas Evan Brubaker. Ouais. Morning Glories volume 8 est sorti en TP cette semaine avec les épisodes 39 à 42. Cette série toujours écrite par Nick Spencer avec des dessins de Joe Isma, c'est au prix de $13. Et puis le premier TP, là on a pas mal de premiers TP qui sortent, notamment Low, la nouvelle série de Rick Remender et Greg Tokini au prix de $10. Les 6 premiers épisodes sont collectés au prix de $10. Franchement, c'est vraiment pas cher pour tester une série.
Franchement, hey, c'est bas.
Si vous voulez lui envoyer des trucs, genre des cailloux, trucs comme ça.
Bah non, envoyez-moi des omnibus.
Enfin, est-ce que t'as lu ça le saga? Fait plus mal.
Ah, le silence gêné. Nous avons aussi Rush Limit qui sort en TP, la série de Michael Morici et Vic Malhotra, au prix de $10 avec les 5 premiers épisodes de cette série. La première partie en fait d'une trilogie de science-fiction.
Ouais. Alors là, je vois pas du tout ce que c'est par contre, mais bon, c'est pas grave.
Nous avons le troisième TP de Sex, qui lui n'est pas un prix découverte, hein, évidemment, c'est le troisième TP, la série de Joe Kazé et Piotr Kowalski au prix de $15, les épisodes 15 à 20 de cette série.
Ah, Sex.
Nouvelle série aussi qui démarre en TP, la série de Jim Zub et Stephen Cummings, Wayward. Non, je sais ce que tu es en train de penser, Benny.
La transition de ces Sex, Jim Zub.
La transition de l'enfer,
classique.
Quand même.
Ça fait marrer.
Ouais. $10 aussi hein, pour découvrir cette série qui se passe plutôt dans un folklore japonais,
ouais,
avec une héroïne un peu à la Buffy, on va dire, ouais. Pour vraiment enfin, très schématisé.
C'était pas mal quand même.
C'est très schématique hein, ce que je dis. Enfin, maintenant, on va passer chez Oni Press. Letter 44, le deuxième TP, série de Charles Soule et Alberto Albuquerque, non pas Raphaël, hein, au prix de $20 pour la suite de cette série Letter 44. Et chez Legendary, pour terminer, chez Titan, pardon, pour terminer, les deux premiers hardcover, pardon, des séries Doctor Who qui sortent. On a la série sur le 10e Docteur, qui s'appelle Revolution's Terror, au prix de $20. Ce sont les 5 premiers épisodes, hein, qui sont collectés par Nick Abadzis, pardon, et Elena Casagrande, au dessin. Et puis, celle sur le 11e Docteur, hein, donc Matt Smith, qui s'appelle Afterlife, avec Ali Wing au scénario et Simon Fraser au dessin. Les 5 premiers épisodes aussi de cette série. Tous les deux sont au prix de $20. Enfin, un objet un peu... c'est assez long hein, comme partie TP, comme je dis, il y en a beaucoup. Il y en a encore un que j'ai supprimé au fur et à mesure pour vraiment vous garder l'essentiel. Un objet un peu à part, un bouquin qui s'appelle The Joker, Serious Study of Clown Prince of Crime. Donc, plus francisé, une étude sérieuse sur le... prince de le clown prince des crimes, voilà hein, c'est francisé à l'arrache, c'est du hardcover, ça vaut $60 hein, c'est un gros bouquin qui va vous faire une étude à travers différents médias comme les jeux vidéo, les comics, la politique, la magie, le mysticisme, mais aussi la psychologie, l'animation, la télévision et la philosophie du Joker en lui-même.
Et c'est écrit voilà. Par qui?
C'est écrit par pas mal de gens puisque s'il y a plusieurs études en fait de plusieurs personnes qui sont spécialisées chacune dans leur domaine.
Oui, au fait, c'est du copy de Wikipédia quoi.
Je pense pas. Voilà donc un gangster basique hein, qui avait démarré dans le Batman 1 et qui est devenu le mythe que l'on connaît aujourd'hui, étudié un petit peu de façon plus sérieuse. Si jamais vous en voulez en savoir plus sur le Joker ou que vous êtes vraiment très très fan et que vous avez envie de voir ce que peuvent donner des études très sérieuses.
C'est intéressant.
Oui, ce sont des bouquins très intéressants qui permettent d'aller plus loin si jamais vous avez envie de le faire.
Quand même, la grande question, c'est de savoir, est-ce que le Joker est plus fou que Batman?
Ou est-ce
plutôt,
Batman
est-ce que
est
le Batman est aussi fou que le Joker, quoi, finalement?
Mais est-ce que le Joker est Jack Napier et a-t-il tué les parents de Batman?
Ouais.
Voilà.
Est-ce que le Joker rigole tout le temps?
Ce sourire ne cache-t-il pas, en fait,
est-ce que une profonde, le Joker
dépression?
J'ai pas compris ce que tu as dit, Bruno.
Non, mais c'était une blague, je me demandais si le Joker aimait le jus d'orange.
Ah oui, effectivement, oui. Bon, on peut appeler ça une blague dans certains endroits de l'univers.
Sur la Terre 3.
Une tentative de blague. Ouais, sur la Terre 3, ils rigolent tous, mais c'est vraiment que sur la Terre 3. Quoi.
Tout le monde m'envoie des trucs à la gueule. Quoi.
Non, moi je veux être sur Terre 3, je me marre quand même. Allez, on passe à Marvel pour terminer cette émission. On démarre avec toi, Bruno. Tu vas nous parler du New Avengers numéro 32. Est-ce que Rabou Malal...
Le marabout
et,
malade.
Sa nouvelle identité est révélée. Est-ce que c'est
alors,
bien?
Alors, c'est un numéro important, écrit
j'ai
par
lu
Jonathan
Hickman.
J'ai l'impression qu'à chaque numéro, c'est important.
Non, mais j'ai lu trois pages de ce numéro et il m'est tombé
épique.
Des mains.
un vrai, numéro hein. épique qui s'appelle The Fall of Gods. Donc, c'est dessiné par Mike Deodato. Donc, graphiquement, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce que fait Deodato. Et donc en fait là on va pas s'intéresser du tout à Rabou Malal, on va s'intéresser aux Beyonders avec un groupe qui est composé de Ex Nihilo, Hyperion, Thor et Nightmask Abyss qui sont partis dans l'espace pour faire une enquête et essayer de retrouver les Beyonders. Et donc ça va être le gros combat en fait entre les Beyonders et justement ce groupe quand même assez puissant hein, quand même. On a Thor qui effectivement même s'il ne peut plus soulever Mjolnir, il a récupéré le marteau du Thor d'une autre terre, une terre dans laquelle il faut être unworthy pour pouvoir soulever Mjolnir. Donc là c'est très pratique pour lui, ça lui permet de retrouver son marteau. Et on a droit à un combat assez badass avec les Beyonders, avec aussi parfois des idées de concepts assez bizarres à la Hickman, tout particulièrement par exemple comment les Ex Nihilo utilisent leur pouvoir pour attaquer les Beyonders.
Je me permets quand même d'intervenir parce que ça me fait quand même vraiment de la peine quoi.
Dis-moi.
Non mais voilà, on envoie Thor dans une réalité où il faut être unworthy pour pouvoir soulever le marteau, pour qu'il ait le marteau pile poil à temps quand Avengers va sortir. Parce que ce serait con quand même que dans les comics, ou que les gens iront peut-être acheter au sortir du film Avengers, bah Thor, il n'ait pas son putain de marteau quand même.
Mais non.
Ouais. Je suis désolé, je dois être vraiment très cynique, mais moi je le vois comme ça. Quoi.
Il a le marteau de Thor avec deux R. Ça n'a rien à voir.
Enfin, de toute façon, Steve, pour avoir feuilleté le bousin, Thor, il a quand même une grosse différence, ou en tout cas un truc en moins qu'il n'aura pas dans le film.
on va dire que c'est depuis longtemps ça.
Il y a un morceau de saucisson là qui est parti.
Il y a des pertes dans ce comics.
Il y a des pertes humaines.
C'est bien, tout va être annulé dans quelques mois, donc c'est pas grave.
Des scènes assez impressionnantes.
Souvenez-vous, hein, Remender, il les a tous tués à un moment donné. Hein. Wolverine, Thor, etc. Tous dans le même numéro, ils étaient tous morts. un mois après, ils étaient là. Tout sourire.
C'est un épisode de transition un petit peu, enfin de transition, qui s'intéresse pas vraiment aux autres personnages Avengers et à la destruction de la Terre. Là, c'est vraiment la mission où étaient partis Hyperion et Thor et compagnie. Ça fait plusieurs numéros qu'ils étaient partis. Là, on voit ce qu'ils deviennent et effectivement, c'est assez, on va dire, extrême ce qui leur arrive.
Ah, c'est badass! C'est pour ça que j'ai arrêté. Ça m'intéresse pas, moi, ce qui leur arrive, honnêtement.
Une bonne lecture.
Ouais, bah Hickman n'a pas réussi à me passionner avec cette intrigue et honnêtement, moi j'étais déçu. Moi je m'attendais, moi je voulais voir du marabout malade et voilà, j'en ai pas eu.
Peut-être dans le prochain numéro d'Avengers,
bah oui.
Tu retrouveras Rabou Malade.
Ce que j'adore, c'est que Bruno quand même nous dit c'est un numéro épique et tout, c'est un numéro de transition, il finit par dire.
Il y a des scènes épiques, mais effectivement ça s'intéresse moins au devenir de la Terre et plus en fait à... Bah justement au rôle des Beyonders dans l'attaque et dans les incursions.
J'ai tellement loupé de choses que je savais pas que les Beyonders, il y en avait plusieurs en fait. C'est pas rien à voir avec le Beyonder quoi.
Mais on l'a déjà annoncé il y a déjà quelques semaines dans les
news
Benny. C'est pas grave.
Mais c'est une série qui est sur le long cours avec des éléments effectivement qui sont apportés petit à petit, qui servent. Ouais. Par exemple, le coup du Thor d'une autre terre, c'était quelque chose qui a été introduit il y a plus de 10 numéros. Et voilà, le fait qu'il puisse utiliser ce marteau, ça a été assez bien
ça,
amené.
Moi, je parle du Beyonder.
Et pour les Beyonders, c'est pareil, ça a été amené il y a quelques numéros déjà.
Ouais. D'accord.
On va continuer avec le 14e épisode de Daredevil, toujours écrit par Mark Waid et Chris Samnee. Chris Samnee qui s'occupe aussi de la partie graphique, une colorisation de Matthew Wilson. Il n'y a pas de TH, il y avait juste un S. Daredevil a changé. Et oui, Daredevil a beaucoup changé. Rappelons très vite hein, le principe. Il est parti à San Francisco puisque outé à New York, il ne peut plus exercer le droit. Il est donc parti avec sa petite amie actuelle, donc Kirsten McDuffie, qui est elle aussi avocate. Et il est donc arrivé à San Francisco et après avoir vécu pas mal d'aventures, son père, Kirsten McDuffie, lui a proposé un contrat qui lui permettrait de rapporter beaucoup d'argent, à savoir 8 millions de dollars, en écrivant un livre, tout simplement son autobiographie, puisque maintenant tout le monde sait qu'il est Daredevil, il n'a plus vraiment d'identité à protéger. Et c'est justement un peu le principe, c'est que puisqu'il n'a plus d'identité à protéger, son nouvel éditeur lui propose quelque chose d'assez bête finalement. Pourquoi porter toujours un masque? À quoi ça sert? Puisque tu n'as plus d'identité à protéger. Et donc voilà Matt Murdock, le pimp, habillé tout en rouge avec une boucle de ceinture DD et qui se balade comme ça. Et chose qui ne plaît pas du tout à Kirsten McDuffie, évidemment, on se doute bien qu'il va y avoir des conséquences à tout ça. Il va découvrir aussi un nouvel arrivant à San Francisco, quelqu'un qui a des pouvoirs assez proches des oiseaux, mais qui n'est pas forcément la personne que l'on croit. Voilà, je vais pas en révéler trop, en tout cas ça rejoint pas mal les intrigues qui étaient laissées en suspens, notamment les intrigues avec The Shroud, etc. Vraiment très bien, on sent que Mark Waid approche de la fin de son run, on le sait, il va partir de Daredevil, et donc il est en train de conclure toutes les intrigues qu'il avait. Donc moi, franchement, j'aime toujours autant cette série, c'est vraiment très fun, voir Daredevil en pimp, c'est vachement drôle, si vous avez envie de vous y tester, en tout cas, allez-y.
Voir Daredevil en pimp. Ouais.
Ah non, mais franchement, c'est vraiment, c'est toujours magnifiquement mis en scène par Chris Samnee. Moi, j'aime toujours autant. Pour moi, c'est un bail, ce Daredevil. C'est une série que je suis toujours avec plaisir.
À noter que Mark Waid, là, du coup, l'annonce, c'est que c'est lui qui reprend les All New, All Different Avengers. Donc, peut-être que tu suivras quand même cette série, Steve, au final.
Franchement, je suis pas sûr, étant donné que Marvel, j'ai vraiment envie d'arrêter parce que ça me fait vraiment chier qu'ils font vraiment de la merde. Et qu'en plus, enfin, voilà, une série de second couteau ne m'intéresse pas. Ils n'ont pas le profil d'Avengers.
Mark Waid avec les Avengers, c'est bien quand même.
Ouais, mais attends, on lui a filé des Avengers de seconde zone. Faut arrêter, quoi. Ils n'ont absolument pas gagné leur galon. Ils ne sont pas dignes d'être Avengers. Ça me fait rire, quoi. C'est quand même quelque chose qui est censé se mériter. Remarque, non, depuis que Bendis a bafoué un peu les Avengers et que tout le monde l'est, après tout, pourquoi pas. Mais je sais pas, la notion d'héritage n'est pas la bonne, en tout cas, pas selon moi, pas comme ça. Ils n'ont pas assez
Marvel,
fait leur preuve.
Vive Marvel, moi j'achèterai, moi je soutiens avec Bruno, I'm with Marvel, voilà, I'm with Bruno, et puis vive Secret Wars, et j'achèterai les Omnibus.
Bien Bruno, justement, tu vas
déjà, je passe la commande à Pulp Bordeaux et tout là.
Ah vas-y, oui, vas-y, viens,
mets-moi tout Secret Wars de côté là. Non, je m'engage un peu vite. Surtout pourquoi je les commanderai à Pulp Bordeaux?
Si tu prends toutes les mini-séries, je t'en offre une.
Monsieur est généreux. Contactez Bruno, hein, Bruno @comiccity.fr si vous voulez vous arranger avec lui.
Si vous voulez une photo dédicacée de Bruno avec chaque exemplaire de Civil War, allez-y.
Peut-être une photo Pringles, sait-on jamais. Si vous êtes bien sage.
Pas. Peut-être
on va rester
Pringles
on va rester avec toi
comics.
Bruno qui décide de lire beaucoup de Marvel et donc son univers pas du tout partagé puisque Darth Vader numéro 3.
Oui, c'est écrit par Kieron Gillen avec Salvador Larroca au dessin et ça continue de s'intéresser en fait au devenir de Vador après la destruction de la première étoile noire alors qu'il est tombé en disgrâce et qu'il doit à nouveau faire ses preuves envers l'empereur. Et qu'il enquête un petit peu en secret pour déterminer qui est la personne qui a détruit l'étoile noire. Et dans ce numéro, en fait, on va introduire des nouveaux personnages, et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, quoi, parce que du coup, jusqu'à présent, les deux premiers numéros, ça reprenait vraiment les persos qu'on a vus dans la trilogie. Là, c'est des créations originales.
X fois.
Oui,
des
voilà.
Personnages qu'on a vus X fois.
Voilà, donc là, c'est des persos originaux. À savoir, il y a une archéologue qui s'appelle Aphra qui va être recrutée par Vador et c'est un personnage qui fait beaucoup penser à une sorte d'Indiana Jones féminine qui recherche des vieux droïdes et des vieilles machines pour pouvoir les transformer. Souvent, elle travaille pour les plus offrants.
Et, ah, de toute façon, ils ont le droit, ils ont la licence. Hein.
Exactement. Et ça va être l'occasion aussi de faire la connaissance de deux droïdes assez fun qui sont des sortes d'équivalents de C3PO et R2D2.
Bah oui, mais c'est ce que Steve avait dit. C'est ce que Steve avait dit en se plaignant, en disant « Ah, oh, j'espère qu'ils vont pas nous sortir les... » Je crois que c'était toi, Steve, hein, qui disait « J'espère qu'ils vont pas nous sortir les versions black de tous les personnages. » Et après...
Alors, ils jouent après, un peu là-dessus, mais c'est pas exactement ça.
Ah ouais, mais un peu quand même, quoi. Bon, mais, un peu quand même, surtout ces 3 PO. Hein.
Mais c'est amené de façon assez rigolote. Et voilà, après, si vous avez aimé les droïdes assassins qu'on a pu voir dans KOTOR, bah, vous allez peut-être retrouver... des personnages assez attachants avec
Tournicotor.
Oui, voilà. Et de Kotor. Comment? Qu'est-ce que t'as dit?
Le mec est perturbé.
Je suis perturbé par ta blague qui n'est peut-être pas une blague.
J'ai dit t'as dit Kotor, j'ai dit Tournicotor, c'est tout.
D'accord. Voilà. Bon bah c'est pas grave. En tout cas,
si c'est grave. Tout l'univers est
menacé. Graphiquement, c'est très propre, c'est joli ce que fait la Roca. Et au niveau de l'intrigue, ça avance pas beaucoup par contre. C'est vraiment un épisode d'introduction du personnage.
Ouais, mais quel personnage, franchement, quel charisme. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Parce que voilà un nouveau personnage introduit efficacement quoi en 20 pages, ouais, c'est ça. Il t'intéresse vraiment, il parvient à t'intéresser à ce personnage comme tu disais, une espèce d'Indiana Jones au féminin de l'espace. Et franchement, depuis que la franchise a commencé en comics, c'est le premier vrai personnage nouveau que j'ai eu plaisir à découvrir dans cet univers étendu Star Wars. Et voilà. Et franchement, non, elle méritait bien un épisode entier sur elle. Et on retrouve bien aussi la patte scénaristique de Karen Gillan qui, à la manière d'un Loki, je sais plus comment s'appelait la série.
Journey into Mystery,
voilà. Avec Darth Vader en lieu et place de Loki qui lie des alliances avec divers personnages pour son grand plan final. Et voilà, donc c'est très bien foutu. J'ai trouvé ça très plaisant cet épisode. Ouais. Non, franchement, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Moi, j'aime toujours autant Darth Vader, beaucoup plus que la série Star Wars. Je la trouve bien plus innovante pour le moment.
Je suis tout à fait d'accord avec toi et pour moi c'est un bon gros bail.
Et pour toi Brune
pardon. Pareil. Voilà, Bruni.
Bruni
Carla. Carla de mon prénom.
Pitié, ne chante pas. rappelons que
elle chante pas.
Oui, elle whisper, elle, c'est vrai.
Ouais, elle parle.
Rappelons que c'était dans le thème comics hein, Walking Dead, Whisperer, etc. Rappelons que ces séries sont maintenant dans la nouvelle continuité donc peut-être que ce personnage sera important dans les futures itérations Star Wars.
Un peu vieille, mais elle sera peut-être importante.
Elle aura peut-être des enfants, ou un peu vieille, après tout. C'est tout à fait possible, en tout cas. Chaque personnage, en tout cas, qui est annoncé maintenant, est un personnage qui peut revenir.
Ouais.
Au contraire de KOTOR, qui n'est plus dans la...
Ah non, oui.
Dans la continuité.
Qui a disparu.
Voilà, malheureusement. Allez, on termine notre partie Marvel avec toi, Benny. Tu vas nous parler du Uncanny X-Men numéro 32.
Oui, alors... Uncanny X-Men numéro 32 par Brian Michael Bendis et Chris Bacalo, je crois. Attends, si voilà, oui, Chris Bacalo, tout à fait. Alors un épisode vraiment sympa avec Cyclope qui fait un petit peu son introspection personnelle. Et surtout qui à cette occasion discute et en grande discussion avec son frère Avok. Et franchement les retrouvailles entre les deux frères sont vraiment voilà, pour une fois c'est bien écrit quoi, c'est juste, c'est frais, c'est un Cyclope comme on aimerait en voir plus souvent. On a l'impression qu'il était endormi, qu'il était dans un grand sommeil depuis plusieurs mois. Et que là, enfin, le vrai Cyclope s'est réveillé et voilà, et qui revient aux affaires. Et il y a même une Emma Frost pour une fois qui est pas du tout antipathique. On n'a pas du tout envie de lui mettre des claques. Une Emma Frost très très lucide, très intéressante. J'ai envie de dire. Donc c'est miraculeux quoi. C'est vraiment l'épisode de la réconciliation, mesdames et messieurs. non, mais enfin voilà, très bon épisode pour une fois. De toute façon c'est totalement aléatoire avec Bendis, des fois c'est très bien je trouve et puis des fois c'est pas ça du tout. Bah là en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'est un épisode qui sonne juste.
Bah j'ai l'impression que ça dépend si c'est lui qui écrit l'épisode ou pas en fait, ou si c'est l'un de ses nombreux esclaves qui écrivent pour lui.
Ouais voilà, ces nombreux esclaves qu'il fouette bien sûr.
Comme tu disais, on retrouve Cyclope. Un Cyclope comme on aimerait le voir plus souvent. J'ai envie de te proposer d'ouvrir ton pantalon, tu verras bien le Cyclope.
Pas sûr que ce soit comme tu aimerais le voir plus souvent.
plus sérieusement, c'est toujours le Havok scarifié par Uncanny Avengers.
Ouais, bah tout à fait, ouais.
Les problèmes de continuité chez Marvel, donc c'est pour ça que je pose la question en fait.
Non. Justement, enfin c'est très touchant de voir que leur retrouvaille, ils en ont chié tous les deux dernièrement et ils commencent à être sur la voie tous les deux de la rédemption et c'est cool quoi. Franchement, c'est très bon épisode duquel se dégage une certaine fraîcheur et j'ai hâte de voir ce que va devenir Cyclope dans les mois à venir. Le Cyclope, le vrai Cyclope, quoi, j'ai envie de dire. Le Cyclope adulte.
Pas celui dans le pantalon.
En même temps, est-ce que Bendis est pas en train de ranger un peu les jouets puisqu'il se casse, donc.
Ouais, mais en même temps, là, c'est plutôt bien fait.
Après avoir déféqué sur la franchise.
Mais toujours est-il que c'est un bon bail pour cet épisode. Ça fait plaisir. Voilà.
On termine avec les TP Marvel Runaways Complete Collection, 3e TP, avec Young Avengers and Runaways 1 à 4, les épisodes 19 à 30 de la série Runaways de 2005, le Runaways Saga et la mini-série Secret Invasion Runaways Young Avengers 1 à 3, tout ça au prix de $40. On a divers scénaristes, on a notamment aussi du Umberto Ramos au dessin. Si vous aimez cette équipe des Runaways qui a un petit peu disparu actuellement de l'univers Marvel, mais que vous avez envie de les avoir en version un petit peu complète comme ça, puis relativement pas cher, hein, c'est les Complete Collection, c'est pas très cher pour la quantité d'épisodes.
530 pages, hein, quand même.
Ouais, $40 pour 530 pages, ça reste du bon prix. Contrairement au TP actuel de Marvel, parce qu'on a bien vu qu'ils ont monté leur prix ces derniers temps. Toujours dans le vieux Iron Fist, Return of Kunlun, c'est au prix de $35, là encore plein de mini-séries sur Iron Fist à travers diverses périodes, notamment on part de 96 avec une mini en deux épisodes de Iron Fist, il y aura la mini de 98 aussi qui était en trois épisodes, la mini Iron Fist Wolverine 1 à 4, Iron Fist la mini de 2004, et oui décidément ce personnage a eu beaucoup de mini-séries qui étaient en six épisodes, le Uncanny Origin 14 et du matériel de Marvel Knights Double Shot numéro 4. Voilà pour l'ensemble de ce TPB. Hawkeye aussi a du vieux matos, du vieux matos. Pas si vieux que ça quand même, ça reste relativement récent parce que c'est tout le matos écrit par Jim McCann. Ça vaut $35 et c'est donc la mini-série New Avengers The Reunion qui était en 4 épisodes, la mini Hawkeye et Mockingbird en 6 épisodes, le Widowmaker. Widowmaker. Le faiseur de fenêtres, ouais.
Le poseur de fenêtres, ouais.
Quel méchant de ouf. Widowmaker.
Il fout des fenêtres partout, puis du coup, on tombe.
1-4, on a aussi cette série Hawkeye Blind Spot, 4 épisodes, le sketchbook de Hawkeye et Mockingbird et du matériel de Dark Reign New Nation 1 et Enter the Heroic Age 1. Voilà, c'est toute la période post-Dark Reign où Hawkeye avait eu quelques projets de séries plus ou moins solo ou accompagné de Mockingbird, pas mal de mini-séries. L'époque de Jim McCann, moi, j'aimais plutôt bien. Bon, c'est sûr que ça vaut pas ce qu'a fait Matt Fraction sur le titre, mais c'était pas si mal que ça. Enfin, on termine avec quelque chose qui va faire plaisir à Benny, du Amazing Spider-Man du vieux, c'est la Epic Collection. C'est le 22e volume de cette Epic Collection. Nous sommes dans les années 90. Ça s'appelle Round Robin. T'en rappelles-tu,
oh,
Benny?
Quel arc pourri, par contre. franchement, ça n'a pas grand intérêt, hein, cet arc-là. C'est, je me rappelle, ça faisait partie de ces épisodes de, enfin, ces numéros de Strange qui contenaient cet arc que je voyais en magasin en occasion et que je prenais pas parce que j'en avais juste rien à foutre de ce morceau-là. Avec des personnages comme Midnighter, je crois.
Midnighter chez Marvel, oui.
Night Thrasher, ouais.
Dedans il y a les épisodes de 351 à 360 d'Amazing Spider-Man. Nous avons aussi l'annual 25 de cette même série, ainsi que l'annual 11 de Spectacular Spider-Man, l'annual 7 de Web of Spider-Man et Spider-Man Fear Itself n'ont rien à voir avec le crossover. Voilà, disons-le bien. C'est Spider-Man qui va affronter la Tri-Sentinelle, se retrouver avec les pouvoirs de Captain Universe.
Y a pas Grand Morbin alors.
Non,
c'est
l'arc principal puisque c'était un arc d'Eric Larson en 6 parties, sachant qu'il y a 10 épisodes de Amazing Spider-Man à l'intérieur. Et puis il y a ce fameux arc Round Robin où Il va être en tandem avec Moon Knight, le Punisher, Nova, Night Thrasher et Darkhawk.
Ouais.
Voilà, et les épisodes annuels contiennent la saga Vibranium Vendetta.
Oh putain. Bon ben, voilà. Bonne chance, hein, si vous voulez vous bouffer ça.
Il y a aussi du cardiaque, il y a du Ultron, il y a plein de choses.
Ouais, mais tout à l'heure tu disais pas de l'ancien pour pas si ancien que ça pour Hawkeye. Dis-toi que c'est même moins vieux que Comic City.
Oui, 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 bien sûr, puisqu'on en avait parlé hein, de ces épisodes à l'époque.
Ouais, ouais.
Ça date, oui, de 2009-2010, quelque chose comme ça, 2010, ouais, par là.
T'étais déjà aussi con, en tout cas.
Oui, oh bah, ça empire même d'année en année. Hein. Oh, putain, la vache. Voilà, en tout cas, c'était le programme de la semaine pour le Comics Weekly, le 238e épisode. La preuve, ça fait un bail que ça dure, hein, par semaine.
C'est connerie, ouais.
On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine dose de comics, le début du mois d'avril, avec le début notamment de Convergence.
Ouais.
Gros, mais tu vois, on parlait de con, donc voilà.
C'est tout ça pour être raccord.
C'est tout va vers ce point-là, tout converge.
Et dans Converge, il y a.
Ouais.
Bah, il y a voilà. Les deux. Hein.
Qu'est-ce que c'est beau. On se retrouve donc la semaine prochaine, si vous êtes encore là.
On conversera de Convergence la semaine prochaine.
Et comme d'habitude, hein, vous connaissez la manœuvre, le petit like sur Facebook, vous nous suivez sur Twitter, et puis vous retrouvez tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes.
Vous connaissez la manœuvre, le petit chèque aussi, hein.
Bah, il y a le Tipeee, évidemment, si vous voulez nous soutenir.
Le petit chat à Comic City, hein, voilà.
Et puis les mails aussi, l'adresse c'est podcast@comiccity.fr. À la semaine prochaine, portez-vous bien et lisez plein de bonnes choses.
Ouais, ciao ciao, que la force soit avec vous.
Ouais, marabout à poil.